Et c'est une voix d'Europe 1 que j'accueille ce matin. Bonjour Sébastien Guyot.
Bonjour Sébastien Krebs.
Les auditeurs de la matinale week-end vous connaissent bien, vous y présentez les journaux, mais ça fait plusieurs mois maintenant que vous travaillez en parallèle sur l'écriture d'un podcast qui sort aujourd'hui, produit par Europe 1 Studio. Ça s'appelle Le son de vie, le son en deux mots. Quel est le concept de ce podcast?
C'est un voyage sonore vers la résilience. Tout est parti des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan que j'avais couvert en tant que reporter pour Europe 1. Et j'avais fait des rencontres avec des êtres extraordinaires, comme l'avait dit une psychologue à l'une des sœurs des victimes. Et ces êtres extraordinaires ont un parcours de vie particulier, puisqu'ils ont vécu des traumatismes, forcément. Et ils se sont relevés encore plus fort qu'avant. Ça s'appelle la résilience, donc. Et l'une des personnes m'avait dit, voilà, grâce à la musique, j'ai réussi à rebondir, à me relever un petit peu, et ça m'a donné l'idée de trouver cet angle, ce concept des leçons de vie à travers les sons de leur vie, donc les sons qui les apaisent, les sons qui les rassurent, les sons qui leur ont fait du bien ou même les sons qui les hantent encore aujourd'hui.
5 épisodes de 20 minutes dont le premier donc paraît aujourd'hui avec une rescapée de cet attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, Sigolène Vincent. Elle était chroniqueuse à Charlie. Son histoire est absolument terrifiante. Elle était là dans la salle.
Elle était là, elle a tout vu, elle a tout subi. Et elle a été épargnée. L'un des frères Kouachi, l'un des terroristes, la tenait en joue avec son arme de guerre et lui a dit « Tu es une femme, on ne tue pas les femmes », même s'ils avaient tué Elsa Kayat. « On ne tue pas les femmes et donc on te laisse en vie, mais ce que tu fais est mal et tu liras le Coran. » Réfléchis à tout ça. Mmh. Et elle est restée en vie et forcément c'est un traumatisme de voir tous ses amis de Charlie Hebdo morts autour d'elle. Elle a du mal à s'en remettre, elle quitte Paris, elle va s'installer dans le sud de la France où elle va commencer sa lente reconstruction à travers beaucoup de sons, notamment les bruits de la mer que vous entendrez dans ce premier épisode de Leçon de vie.
Et elle raconte aussi que la musique a joué un rôle important dans ce travail de reconstruction et elle vous raconte le jour où elle a commencé à en réécouter.
La musique revient à partir du moment où on m'offre une platine vinyle pour mon anniversaire. Alors là, depuis, elle n'arrête pas de tourner la platine.
Nous prendrons le temps.
Sébastien Guyot, pourquoi raconter cette reconstruction à travers justement ici la musique, ailleurs le son de la mer, le son qui les entoure?
J'ai lu dans leurs différents témoignages, que ce soit dans la presse ou dans des livres qu'ils ont écrits, que le son, le bruit, la musique revenaient toujours à travers leur parcours de reconstruction. Et donc je les ai appelés les uns les autres pour voir si je me trompais ou non. En effet, ils ont réfléchi avec moi à ces différents sons, ces différents bruits qui les avaient aidés à se reconstruire et l'angle est venu tout seul et finalement... On se rend compte que ça a une importance particulière pour tous ces personnages, quel que soit leur parcours de vie.
Et il y a ces bruits qui les apaisent, parce qu'il y a aussi ces bruits qui les angoissent.
Oui, alors forcément, les sirènes d'ambulance, les sirènes de pompiers, par exemple, ou encore pour Sigolène Vincent, le bruit de, vous savez, de ces ardoises de restaurant qu'on voit à l'extérieur et qui tape sur le trottoir, ça fait comme un bruit d'une arme. Tout ça, elles ont eu du mal, ces personnes, à s'en relever, qui les hantent encore. Et puis, petit à petit, avec du recul, parfois ils ont fait le chemin inverse. Et puis finalement, ils ont avancé pas à pas pour se reconstruire.
Vous avez rencontré non seulement des victimes de Charlie Hebdo ou des proches des victimes, mais aussi donc Mathias Malzieu qui est victime d'une maladie rarissime, ou Timothée Adolphe qui est un champion du monde d'athlétisme aveugle. Donc ce n'est pas seulement des victimes du terrorisme. Il y a des points communs entre tous ces profils dans leur façon d'aborder la vie, de se reconstruire après un drame.
Alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est que oui, évidemment, il y a des points communs. Parce que quand on est résilient comme ces personnes-là, forcément, on a une force de caractère à la base qui permet de se relever. Néanmoins, il y a pas mal de différences aussi. Je pense à deux personnes qui ont vécu l'attentat de Charlie Hebdo, Sigolène Vincent, qui était dans les locaux, on l'a dit, mais aussi Chloé Verlac, qui est la veuve de Tignos, qui est l'un des dessinateurs de Charlie, qui a été assassiné. On se rend compte que leur parcours est totalement différent, que Sigolène a eu besoin de fuir, par exemple, Paris, et Chloé Verlac, elle, pendant 2-3 ans, elle s'est vue comme l'attachée de presse de Tignos, il fallait absolument qu'elle défende son œuvre et elle n'a vécu que pour la mémoire de son mari, en oubliant quelque part sa propre vie et celle de ses enfants. Et elle me le raconte avec un ticket de manège qu'elle a retrouvé et qu'elle a écrit d'ailleurs dans son livre, dans sa poche 2-3 ans après l'attentat. Et elle se rend compte que son fils de 5 ans, il a grandi, il a 7-8 ans, et qu'elle ne l'a plus jamais emmené dans un manège. Et ça, c'est un son, le bruit du manège, qui va commencer, sans trop en dévoiler, l'épisode de Chloé Verlac.
Et justement, Chloé Verlac, qui fait l'objet donc du deuxième épisode qui va paraître la semaine prochaine, qui est la veuve du dessinateur Tinius tué à Charlie et qui se confie sur ce moment où elle a dû annoncer à son fils de 5 ans que son père ne reviendrait pas.
Lui a 5 ans, 2 mois et 7 jours. Et à Solal, il faut expliquer avec des mots d'enfant. Et donc je lui dis que l'accident au travail de son papa était très très grave et que papa ne va pas se réveiller de l'accident et qu'il ne rentrera donc pas à la maison. Et là, Solal me regarde et me dit « Donc il est mort ».
Sébastien Guyot, ces récits sont absolument terribles. Comment on s'en remet? Où est-ce que ces gens puisent leur force, en fait?
Alors, ils sont terribles, ces récits. Et en même temps, vous allez l'entendre dans ce podcast, ce n'est pas plombant parce qu'il y a une force de vie, il y a une envie de se relever, il y a de l'optimisme dans chacun de ces personnages, alors qu'ils trouvent à la fois dans leur caractère propre pour certains, dans l'aide de leurs proches pour d'autres, que ce soit des blouses blanches ou non, que ce soit à travers le sport comme Timothée Adolphe. Chacun trouve la force de se relever en fonction de ses racines, de ses proches et de ses perspectives.
Ils attendent quelque chose du procès de Charlie Hebdo qui va s'ouvrir le 2 septembre?
Alors au départ non, parce qu'ils savent que ce ne sont pas des acteurs majeurs de l'attentat qui vont être jugés, hein, ce sera plutôt des passeurs d'armes, on va dire. Donc ils n'en attendent pas grand-chose initialement, et finalement, ils se sont dit qu'il fallait y aller parce que c'est un procès pour l'histoire, finalement.
Vous pouvez vous abonner hein, dès maintenant sur Europe1.fr et sur toutes les plateformes d'écoute à ce nouveau podcast donc d'Europe 1 Studio, Le Son de Vie, donc écrit et créé par Sébastien Guyot avec des témoignages donc d'une intensité rare, produit par Fanny Rascle avec Julien Tarot à la réalisation. Merci Sébastien Guyot.
Merci à vous.